Alors Ben, est-ce que tu as pris le risque maximum pour regarder ce film qui est double team?
J'ai pris le double maximum, le double risque, le team risque et le double team.
Oh putain, j'ai rien compris.
Tu veux en parler? On va en parler, allez.
Vous êtes là pour le comité, je suis sûre.
Le comité? C'est quoi le comité?
Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier.
Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone.
J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance.
Je suis prêt.
Alors, moi, je suis vraiment hyper contente parce que je pensais qu'on allait rentrer dans cette espèce de long tunnel de films immatables et j'avais oublié à quel point c'était bien double team.
C'est vrai.
C'est vraiment le film où il y a un million d'idées, un million de trucs et en même temps, j'ai pris un tel plaisir en le regardant.
Ça marche.
C'est rare. J'ai trouvé ça génial.
Je t'avoue, j'adore Van Damme de tout mon cœur, mais je t'avoue que depuis le grand tournoi, je me dis c'est le début de la fin et en fait, non. Bon alors, risque maximum, c'était un petit peu chelou. Mais effectivement, petites attentes, je me souvenais assez peu du film et de scène en scène, je me disais « Mais oui !» C'est un peu comme quand tu vas revoir une vieille malle avec des souvenirs et tu fais « Mais oui, je l'avais, il était trop bien !» Et je me suis souvenu des scènes au moment où elles apparaissaient à l'écran et c'était jouissif.
T'as vraiment l'impression de mater genre 5 films en un. Il y a vraiment beaucoup de different locations.
De différents endroits.
Mais surtout de scènes de méga baston ou de méga fight qui sont quand même ultra diverses et variées.
Bah tu y arques.
Non mais franchement c'est assez balèze. Donc réalisateur vietnamien mais qui est dans le cinéma chinois plutôt.
Fait au Hongkongais.
Mais franchement balèze quoi. Enfin j'ai vraiment apprécié mon moment. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait rire, mais je trouve que la dynamique est bonne. Je trouve que Jean-Claude...
Il est beau.
Il est toujours beau, Jean-Claude.
Il a un peu une coupe de cul, hein. Mais il est beau.
Non, mais ça va, franchement. Il a pas de pull en laine, c'était un peu décevant.
Mais c'est en été.
Mais en même temps, on va parler de son anatomie.
Ouh là là.
Laissez entrer, bravo.
Dans l'action antiterroriste, il est le meilleur.
C'est bon.
Pourtant, lors de sa dernière mission...
Ce n'est pas lui.
Il a manqué sa cible. Un seul homme peut encore l'aider à revenir dans la partie.
Oh, ça doit faire mal, ça.
Ça fait mal.
J'ai besoin de jouer. Désolé, c'est fermé pour la nuit.
Maintenant, c'est ouvert.
Un dealer d'armes de classe internationale.
C'est le goupillon, ça?
Oui.
Et un surdoué pour les embrouilles.
C'est pas trop. Quand je te regarde, je vois rien que des problèmes. J'adore les problèmes.
Leurs styles sont différents. Très différent.
L'attaque assure la gloire,
mais la défense assure la victoire.
Ils doivent agir ensemble, côte à côte, ou face à face.
J'ai besoin d'un associé.
C'est ton homme, bébé.
Yeah ! Derrière toi !
C'est moi !
Jack est en chemin.
Maintenant, c'est une affaire personnelle.
Tu sais piloter un avion ?
Comme un aigle.
Jean-Claude Van Damme, Mickey Rourke et Dennis Rodman.
Hark, on en parlait. J'ai fait genre j'ai un accent alors que non. En fait, j'ai fait mes petites recherches parce que tu sais, on s'est dit oui. Alors avec Chasse à l'homme, il a ramené John Woo aux États-Unis. Avec Risque Maximum, il a ramené Ringo Lam, etc. Et je me suis dit encore un réalisateur chinois.
Et non.
Et alors si, mais enfin, un réalisateur de cinéma chinois.
Oui.
C'est son premier film en langue anglaise.
Anglaise.
Est-ce c'est JC qui a encore un petit peu ramené, toi, ses bagages.
Est-ce qu'il tirait pas les ficelles alors, du cinéma asiatique.
Effectivement. Le marionnettiste. Eh bah, ben, figure-toi que j'ai fait quelques petites recherches pour savoir et. La plus grande qualité de Jean-Claude et de son histoire, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quelle est la vérité. Il y a plusieurs sons de cloche. Je trouve ça hyper intéressant. Du coup, j'ai même été chercher dans les pourquoi du comment tous les réalisateurs, enfin pas tous, mais beaucoup de réalisateurs et d'acteurs hongkongais venaient aux États-Unis à cette époque-là. Et alors, figure-toi, je te fais un petit cours d'histoire pour me la péter, alors que je l'ai lu tout à l'heure sur Wikipédia.
Ah, Wikipédia, source sûre hein, pour nous.
Ouais, bah, bien sûr, Internet. C'est suite à la rétrocession de Hong Kong par l'Angleterre à la Chine. Donc, ça a été effectif en 97, donc c'est la date du film.
C'est très intéressant. Ouais,
bien sûr. En prévision de ce retour culturel, t'as beaucoup d'acteurs et de réalisateurs, actrices et réalisatrices du cinéma de Hong Kong qui sont partis ailleurs en Europe et surtout aux États-Unis pour essayer de pour s'essayer au cinéma occidental, en se disant que peut-être avec la rétrocession ça allait être le bordel parce que la Chine allait serrer la vis, il va y avoir de la censure, sûrement des baisses de moyens techniques et financiers, etc. Donc ils sont tous barrés. Et c'est pour ça que John Woo s'est barré aussi, même si possiblement Jean-Claude l'a invité et lui a dit viens. Ringo Lam aussi. Et Tsuirark, c'est ça, c'est je vais aller au cinéma américain pour faire mon truc. Et apparemment, il y aurait une espèce de coutume slash bizutage de ce genre de réalisateur quand tu fais partie du cinéma de Hong Kong, c'est-à-dire le cinéma d'action, c'est de te faire des cinémas à petit budget américains, parce que là, c'est malheureux de le dire, mais Jean-Claude, il est dans le cinéma à petit budget à cette époque de sa vie. Et du coup, on lui a dit, ok, tu veux faire du cinéma américain, bah voilà, tu fais un film avec Jean-Claude, et il en fera même un autre après. Et du coup, je trouve ça très très intéressant.
Finalement, c'est bien qu'il se soit un petit peu ouvert et qu'il soit parti sur cette carrière qu'il voulait internationale, mais la suite de sa carrière, elle s'est quand même faite majoritairement en Chine, parce que tous les détectives dit et tout ça, même c'est si ça.
Oui, parce qu'il est très très connu, effectivement.
Il est très connu. Oui.
Il est venu, il a tourné deux films avec Van Damme et il est reparti.
Mais en même temps, est-ce qu'il n'avait pas fait le tour du cinéma?
Ah bah,
est-ce
que, est-ce il avait fait le Mawashi du cinéma.
Est-ce qu'on n'a pas fait le tour du cinéma une fois qu'on a travaillé avec Jean-Claude?
Bah, le cinéma.
Moi, je pense que si un jour je travaille avec Jean-Claude, bah, j'arrêterai ma carrière juste après. Ou en tout cas, je retournerai
c'est
à mes
fini.
Affaires.
La boucle est bouclée.
Mais bon, ça doit être une telle expérience de travailler avec Jean-Claude.
Trêve de plaisanterie.
Mais alors, petite déception quand même pour ce budget de 30 000 dollars qui en fait n'a engrossé que 11 438 dollars.
C'est l'échec. C'est l'échec.
C'est le méga échec.
Et maths, oui.
Je peux comprendre parce qu'il y a un aspect un peu nanar. On n'aime pas trop utiliser ce terme.
Oui, mais on ne sait pas ça quand on va au cinéma à l'époque.
Quand tu ne sais pas que tu vas voir un nanar et que tu vas le voir, et ben, y a forcément un petit choc,
ouais.
Une petite déception.
Est-ce qu'à ce moment-là, en 97, c'est-à-dire ça y est, Time Cop
97,
s'est passé...
97, c'est un an avant la Coupe du Monde, hein. On l'avait pas encore gagné.
Ah, c'est vrai, on n'était pas champion du monde. Mais au niveau de Jean-Claude, parce que quand même, Jean-Claude, c'est plus important que la Coupe du Monde, non? Attention à la footeuse. Tu venais de Marseille, c'est pour ça. Est-ce qu'on n'est pas à une époque où les gens qui vont au cinéma pour voir un Van Damme à cette époque-là sont que des fans purs et durs parce que bah, ça y est, la hype est un peu partie et qu'il n'y a que les gens qui l'aiment de cœur? Tu vois, nanar ou pas, tu vois? Je me demande.
Je m'en fiche.
Si, je sais pourquoi ça n'a pas marché. C'est parce que vraiment, si tu t'attends à avoir un méga bon film, enfin, voilà. Si tu t'attends à avoir un nanar tout pourri, et ben, t'es super content parce que c'est vraiment un film drôle et qui regorge d'idées. Et c'est ça, peut-être aussi son problème, en fait. C'est que moi, j'ai adoré parce que je l'ai vu dans ce cadre-là, mais en vrai, je sais pas
si. Toi, tu l'as pris comme un nanar dès le départ?
Ah, ben, moi, je pensais que j'allais voir un truc tout pourri.
Après, Risque Maximum, c'était légitime.
En fait, j'en avais très peu de souvenirs. Et en fait, au plus j'ai avancé dans le film, au plus je me disais, ah, mais c'est trop bien, ils ont une trop bonne idée, et ça, c'est trop bien, et ça, tu sens trop que c'est tel univers, et en même temps, genre, ça va pas jusqu'au bout, mais en même temps, c'est trop bien, et en même temps, enfin, voilà. Donc, non, je pense que mes attentes étaient basses, et les attentes des gens, peut-être, en juillet 97 étaient hautes.
Vous avez tort.
En prod, on a Moshe Diamant, qui est Monsieur Dollar. C'est lui le prod de Double Impact, Chasse à l'Homme, Time Cop, Mort Subite, et même Risque Maximum, d'ailleurs.
Écoute bien, je vais te donner 3 numéros de compte bancaire de la CIA. Quand j'aurai reçu la marchandise, je te donnerai le code d'accès.
Je sais pas, mon frère. Quand je te regarde, je vois que des emmerdes.
C'est pas énorme non plus, hein, comme budget. Hein. Enfin,
non.
Pour l'époque, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un truc démesuré. Hein,
Non, mais il y avait plus d'argent que pour Risque Maximum, ouais. Alors que Risque Maximum était un échec, lui. Donc je me dis, est-ce que la Van Damme est pas en train un peu de remonter?
Mais ça se voit qu'il y a de l'argent à l'image, parce que t'as quand même beaucoup de lieux de tournage très différents. Enfin, ça se tourne dans plusieurs pays. Donc c'est tourné en France, en Italie.
Belgique.
En Belgique. C'est tourné
à
Arles, en France.
Arles.
Il y a un truc où ça regorge quand même de variété de décors, quoi.
Mais est-ce que, alors ça je n'ai pas l'info, mais est-ce que du fait que Tsuirark c'était son premier film en langue anglaise, il n'a pas eu forcément un salaire de maboule et peut-être que c'est ça qui fait que le budget n'était pas non plus super haut, quoi.
Je n'ai pas l'information sur le salaire de ce monsieur.
Ce que je sais, c'est que, et ça c'est en ayant lu une interview de Van Damme et à côté une interview de Tsuirark qui disait que quand il a fait ce film, il est venu aux États-Unis entre guillemets tout seul, c'est-à-dire sans son staff habituel, sans son directeur photo, son directeur de chorégraphie, tout ça qu'il avait à Hong Kong. Et du coup, je pense qu'ils lui ont mis des gens dans les pattes.
Bah après, c'est
qui
toujours l'adaptation à une nouvelle équipe. Quoi,
ouais, c'est ça. Et malgré tout, il arrive à faire des trucs assez fous.
Allez, allons-y.
Alors, qu'est-ce qui se passe, Julie, dans Double Team?
Alors, dans Double Team, on est sur un agent interprété par Jean-Claude.
Est-ce que c'est un agent de poche?
Moi, j'ai trop kiffé parce que vraiment, c'est le début de Mission Impossible, quoi. Mmh. C'est vraiment, ce film souffle sur votre mission, Jean-Claude, si vous l'acceptez, et d'aller récupérer du plutonium. Des tonnes et des tonnes de plutonium. Voilà. Donc, il y a vraiment un petit message comme ça, enfin, en tout cas, pendant le générique, où je me dis, pas mal. Mission classification rouge, enfin on est dans un truc un peu voilà, espionnage et tout ça.
Quinn, Jack, votre dernière mission a pour nom classification rouge. À 15h15, heure de Greenwich, 32 kg de plutonium ont été volés d'une installation nucléaire protégée par l'armée américaine en Croatie. Nous croyons que Stavros et son organisation vont les vendre à l'Irak d'ici 24 heures. Notre objectif est de vous assurer du retour du plutonium à notre base.
Bah surtout, c'est que je trouve qu'en 5 secondes, on sait qui joue Vandamme, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux en 2 secondes et il est déjà dans un camion
Ce qui est fou, c'est ce que j'allais dire, c'est que 5 secondes plus tard, il est sur une bétonneuse et il saute avec sa bétonneuse au-dessus d'un train.
Mais c'est
donc
génial.
Là, je me suis dit, putain, le film a pas commencé depuis 5 minutes, il a déjà pris une bétonneuse pour... Déjà, bétonneuse, quand même, dans le véhicule verse, pas mal.
C'est vrai que c'est assez rare finalement. Et bah, du coup,
et surtout,
ça a de la gueule.
Bah, monter une bétonneuse au-dessus d'un train qui est en train de passer.
Sans tremplin.
Balèze. Non, et du coup, je me dis, ok, donc là, on n'est pas dans un film lambda. Ça commence très très fort. Il va falloir tenir le truc, quoi. Bah alors là, direct, le sud de la France 3 ans plus tard. Je me dis, ok, on perd pas de temps, c'est bon.
Bah c'est surtout encore le sud de la France. Donc c'est-à-dire que maintenant, ils se font même plus chier à se dire que Vandamme, son accent est dû à une origine. C'est dû, il habite dans le sud de la France, donc du coup, son accent, c'est normal. Tu vois, c'est...
Bah oui, mais.
Non,
bon.
Mais ça change.
Méga baraque, sortie de douche. Allez, petite sortie de douche de Jean-Claude en serviette, comme d'habitude.
On notera qu'il a alors 37 ans, qui est mon âge. Et quand j'ai dit à ma femme, hey, regarde, il a 37 ans, elle a dit, ah, toi, t'as pas fait de film. Je me suis senti comme une merde.
Oh,
voilà, mais écoutez, bah, très bien.
Elle aurait pu te dire que t'avais surtout pas fait de muscu.
Ah, oh, bah, c'est un problème, alors si c'est sympa.
Wow, c'est sûrement douloureux.
Oui, donc, il est sud de la France, baraque de ouf.
Baraque de ouf.
C'est après sa dernière mission qu'il a réussi.
Bah, 3 ans après.
3 ans après.
Pas 3 heures près, hein, 3 ans après.
Ok. Bon, le timeline de Jean-Claude, c'est un grand écart. C'est Time Cop.
Jack, le bébé, c'est bien ce que nous désirons.
Oui.
Ils attendent un heureux événement puisque madame est enceinte. Et ça, eh ben on se dit bébé Jean-Claude arrivera bientôt. Et c'est très agréable de se dire que Jean-Claude a fait sa vie de famille comme
Est-ce qu'il avait une femme enceinte depuis Time Cop? Je crois pas. Hein. Il était plus trop père de famille depuis. J'ai pas le film sous les yeux, mais ouais, c'est ça. Hein. Donc là, il repart. On est content pour lui. On se dit, il s'est posé.
Moi, j'ai aimé parce que vraiment, faut aller récupérer un méchant et il y a du méga riff de guitare. Donc je me suis dit, ah, c'est bien. S'il y a du méga riff de guitare, je pense que ça promet pour la suite.
Maintenant, si vous permettez, nous allons passer aux choses sérieuses. Stavros, il a refait surface. Vous devez nous le ramener vivant.
Donc oui, tu te dis, il faut aller récupérer un méchant parce qu'il y a un gars qui vient de niquer son repos en lui disant, mec, ton pire ennemi est revenu.
Exactement.
Donc t'arrêtes d'être à la retraite, s'il te plaît.
Il lui dit même, tu prendras ta retraite quand lui, il aura pris la sienne.
Enfin, ah, il y a ça.
Alors, vous m'avez retrouvé.
Vous avions jamais perdu de vue.
Dans ce cas, vous devriez savoir que j'ai pris ma retraite.
Donc, faut aller récupérer le méchant. Alors, c'est un vrai méchant. Hein. Il laisse des bombes dans des voitures, sur de la dance des années 90. Là, on est vraiment dans un film iconique, quoi. On va découvrir ce personnage qui, au début, ne va pas trop nous servir, qui est Yaz.
Oui.
Qui est en fait Dennis Rodman.
Qui est 2m200 000.
Qui est déguisé en Lilou Dallas, pour faire simple.
Ah bah lui, c'est vraiment, il est fashionista pendant tout le film.
C'est Lilou Dallas qui se serait retrouvé plutôt dans un club BDSM.
C'est vrai.
Ils sont dans un méga club sadomaso et je me suis dit... Mais...
Sadomaso, techno, laser, années 90. Enfin, on est vraiment dans les années 90.
Et bah s'il y a des gens qui sont allés à Londres, et bah c'est un peu Cyberdog, quoi. Enfin, c'est vraiment, on est dans quelque chose de très fluo et de très vinyle.
Alors qu'on est en Belgique.
Alors qu'on est en Belgique. Oh bah,
Anvers.
Et contre tout.
Et on trouve ce Dennis Rodman en train de se faire tatouer un petit peu le pubis.
Le skeg.
Votre coiffeur, il est daltonien ou quoi?
Moi je me suis dit, ce mec c'est vraiment la version sadomaso de Q dans James Bond, quoi. C'est-à-dire qu'il a plein de gadgets et tout ça. Je me suis dit, si tu devais faire une version un peu... olé olé.
Du coup c'est pas
qui
Q,
doit
Q,
exister,
c'est,
j'imagine.
C'est pas Q, c'est Byte.
Je n'ai rien à foutre de votre orientation sexuelle.
Et donc il va voir Dennis Rodman parce qu'il a besoin d'armes pour aller buter Mickey Rourke, puisqu'on n'a pas dit que c'était Mickey Rourke.
Eh oui, on n'a pas dit que le méchant c'était Mickey Rourke.
Mickey Rourke, post défiguration de la tête, après qui...
Mais Mickey Rourke qui a fait de la salle, hein. Mickey Rourke. Alors, qui est en bon état. Hein.
Figure-toi, j'ai lu.
J'ai lu.
Moi qui essaie toujours de te piéger en te disant des anecdotes que finalement tu finis par connaître. Qu'il a, effectivement, il a été à la salle et il a pris des cours d'arts martiaux. Alors je crois que c'est plutôt boxe et peut-être quelques mawashi. Pour être au niveau de Vandamme et être un méchant crédible, et je trouve ça tout à fait louable.
Et oui, et ça se voit.
Part.
Et
bah
ça
ouais, se voit. Il est balèze.
Ils vont retourner ensemble, non, dans les Expandables?
Alors oui et non, parce
qu'ils sont pas dans le même.
Il est dans le 1 et,
oui.
Et Vandamme il est dans le 2.
Ouais, oui.
Il s'appelle Vilain.
Vilain.
On y reviendra dans notre marathon, c'est pas tout de suite.
Eh bien,
La légende en personne. Je croyais que vous aviez pris votre retraite, Jack.
Donc il rejoint une unité badass. C'est assez intéressant parce que dans cette unité badass, il y a...
Une quoi ?
Il y a une unité badass.
Ah, une unité.
Il y a une nana qui a l'air bien badass, elle aussi. Et il lui dit, est-ce que vous pouvez toucher une cible à 200 mètres ? Et elle, alors dans ma version, qui n'est peut-être pas la vraie version VF, elle lui dit, à 200 mètres, je peux facilement atteindre la bite d'un colibri. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le moment où je me suis dit... Ok, c'est bon, je suis embarquée, quoi.
Ouais.
Je suis embarquée dans ce film qui, clairement, a un niveau de poésie assez poussé.
Pouvez-vous atteindre une cible à plus de 200 mètres ?
À 200 mètres, je peux facilement atteindre la bite d'un colibri.
Mais du coup, je n'ai pas vu la VO, donc je ne sais pas si la VF a pris des libertés. Moi, je crois que j'ai vu la vraie VF, entre guillemets.
Oh là là !
Bah pardon, où elle dit un truc moins marrant, elle dit la bite d'une mouche. Mais je préfère la bite d'un colibri. Mais juste un petit détail sur la VF, parce que ça m'a rendu curieux. J'ai reconnu tout de suite la voix de Van Damme. C'est la voix qu'il a dans Street Fighter, notamment. Du coup, j'étais sur Wikipédia pour voir la fiche de Patrick Baudrier, qui, à partir de Street Fighter, va le suivre jusqu'à maintenant, là, encore maintenant. Et ce qui est rigolo, petit fun fact qui va ne faire rire que nous deux, mais Patrick Baudrier est aussi une voix régulière de James Remar. Je sais pas si ça te parle comme ça. C'est le papa de Dexter dans les séries télé.
Ah. Voilà.
Et c'est aussi le gars qui faisait Maxi Devine dans le Grand Tournoi.
Ah !
Comment il aurait fait pour doubler les deux ? Bon, il sait aucun des deux du coup, mais tu vois, je me suis dit putain, hein, c'est un comité fact.
Nous voulons Stavros vivre.
Autant vous dire que j'étais ravie. On débarque où ? On débarque dans une putain de fête foraine. Et alors moi, j'adore les fêtes foraines. Et alors s'il y a un truc que j'aime encore plus que les fêtes foraines, c'est les fêtes foraines dans les films. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le Flic de Beverly Hills 3, c'est un chef-d'œuvre. En fait, je trouve que c'est un univers, que ça soit dans les films d'horreur, dans les films de baston, dans les trucs comme ça, je trouve que c'est hyper cool. Il y a de la couleur partout. Mais c'est peut-être parce que j'adore les parcs d'attractions. J'adore ça. C'est trop bien. Mais en gros, et je me suis dit, mais putain, j'espère qu'ils vont l'utiliser vraiment bien, cette fête foraine. Et oui, parce qu'ils n'arrêtent pas de monter sur les manèges, ils n'arrêtent pas de se tirer dessus. Alors, bon, il y a quelques casualties, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts, mais je me suis dit, putain, elle est vraiment bien, cette scène. Enfin, il y a un vrai intérêt à ce qu'on soit là, quoi. Enfin,
moi, une des attentes que j'avais par rapport à Tsui Hark, c'est que c'est le cinéma de Hong Kong et c'est un cinéma où ils aiment beaucoup jouer avec les éléments du décor, comme Jackie Chan, par exemple, ou détruire beaucoup de mobilier, beaucoup de bris de verre, beaucoup de bris de bois, mais pas de bris de mots, par exemple.
Ah, comme le fromage.
Je n'aime pas ce qui se passe.
Et donc, ce que je trouve très, très intéressant, intelligent et fun dans cette fête foraine, c'est que c'est un bac à sable pour Tsui Hark et pour Van Damme aussi, où il va y avoir des millions de trucs qui vont tomber dans tous les sens, des clowns géants, des canettes de coca.
Premier placement des vending machines, on en reparlera un petit peu plus tard.
Mais j'ai trouvé ça super cool que Van Damme, dans sa course-poursuite,
il y a du coca,
manque de scrouter sur des canettes et fasse un mawashi triple retourné grâce au marouflage de canettes.
Alors oui, effectivement, c'est un mawashi digne de Pouf le cascadeur. C'est-à-dire que tu penses qu'il va se péter la gueule et il le transforme en mawashi et il fait des cabrioles.
Mais c'est là que tu vois qu'il est fort.
Non, mais j'ai vraiment beaucoup ri.
Jack Quinn, on n'a même pas dit son nom.
Jack Quinn, ouais, déjà...
Oh putain !
Excellent, Jack.
Alors, on retrouve Mickey. Celui des parcs d'attraction, le méchant.
Est-ce qu'il sourit ?
T'es dingue, mon frère !
Alors, Mickey, il est où ? Il est avec son fils. Et alors, du coup, il le récupère parce que la mère s'est faite buter dans la cohue. Mmh. Et alors, je me dis, pas très bonne idée de prendre ton enfant contre toi quand t'es dans une fusillade. Autant le mettre dans un coin. Et ça n'a pas loupé. C'est-à-dire qu'il s'est pris une balle.
Le fils, ouais, c'est vrai.
Le fils.
Mais justement, il y a un truc à ce moment-là, même un peu avant, mais c'est à ce moment-là aussi, je m'en suis rendu compte, que je trouve vachement efficace dans le film, c'est qu'il se passe plein de choses et il y a plein d'éléments qui sont suggérés. Tu vois, notamment la scène de la fête foraine, tu vois qu'il va voir son fils et là, tu comprends qu'en fait, il n'a pas vu son fils depuis longtemps et que du coup, il essaie de le voir en secret et
Vous
que Vandame lui tend une embuscade.
C'est subtil.
Bah oui, bah je trouve qu'on gagne du temps en n'expliquant pas comme des débiles toutes les scènes et qu'on comprend vachement bien ce qui se passe et je trouve ça assez habile. Alors, je sais pas si c'est plus de l'écriture que de la réalisation, mais en tout cas, le résultat est saisissant.
Probablement de l'écriture.
Oh, bah, c'est ça, le scénariste, la meuf, elle avait pas.
Je n'en ai pas la moindre idée, mon vieux.
Donc, en fait, c'est le festival du Mawashi et du coup de pierre tourné. Donc, moi, j'étais vraiment très, 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 très heureuse. Donc, l'enfant du méchant est dead. Et là, je me dis, comment on va enchaîner cette scène quand même? On est dans un parc d'attractions, enfin, dans une fête foraine. Il y a un enfant, en plus, c'est la perte de l'enfant dans la fête foraine. Enfin, c'est thématique, c'est beau, quoi. La forme rejoint le fond. Et là, je me dis, comment on va faire pour continuer cette course poursuite? Et on se retrouve donc dans une maternité.
Téléportée, comme ça.
Comme ça, voilà. C'est encore le thème de l'enfance.
Parce que le bébé est au centre de ce film, effectivement.
Mais oui, c'est la paternité, la perte de l'enfant. Attends, mais ils ont décidé de mettre une grenade dans le berceau du nouveau-né et au lieu de lui balancer la grenade, ils lui balancent le berceau. Mais ça, c'est une idée de film d'action qui est hyper cool, par exemple.
Déjà, de base, les berceaux sur roulette où ils font une espèce de danse entre les couffins, j'ai trouvé ça super.
Mais en vrai, c'est une pure idée.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé ça très, très cool.
Très bonnes idées. Juste petite note sur la scène de la fête foraine qui transite sur la maternité. Je sais pas quel était le souhait à ce moment-là, mais il y a des espèces de scènes floutées au ralenti. Donc, du regard de Van Damme et enfin du point de vue de Van Damme et du point de vue de Mickey Rourke, où t'as l'impression qu'ils ont un genre de sixième sens / pouvoir où genre ils arrivent à analyser la situation et là tu vois, ok, il a trouvé son, enfin c'est vraiment
c'est
son
pour
ennemi,
subtilement
quoi.
Te montrer qu'ils sont très forts, mais
très forts, et que du coup bah ils sont bien l'un et la némésis de l'autre, effectivement.
Après
ça revient pas le reste du film, mais je me suis dit bon bah écoute, ils vont pas utiliser ce pouvoir tout le film non plus. Mais du coup, très cool scène de maternité avec des Mawashi autour des bambins.
Et qu'est-ce qu'on a? On a un réveil, parce que Jean-Claude est HS, et on a un réveil, et là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Il est dans une pièce fermée, il y a un message enregistré où on lui dit, oh, tu vas à la colonie ou tu vas mourir.
Alors, c'est le grand-père de Simpson qui dit ça, du coup.
Mais grâce à vos compétences, vous serez assigné à la colonie.
Non!
Si vous refusez de coopérer, monsieur Quinn, vous avez une alternative. Le gaz neuroplégique est indolore et très efficace. Pourquoi vous donnez cette peine? Vous êtes déjà mort. Du moins, c'est ce qu'on a dit à votre femme et à tout le monde ici-bas. Si vous voulez vivre, appuyez votre pouce sur le scanner près de la télévision.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...
Non mais du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc de la colonie de vacances où personne ne veut aller? Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors effectivement, il met son pouce parce qu'il y a une histoire d'empreinte digitale, donc pour dire qu'il veut aller à la colonie.
Sinon il meurt.
Mais là je me dis, mais ça y est, on est dans le prisonnier en fait. Et franchement, donc c'est sur une, ben, on va pour donner un peu de contexte, c'est sur une île. Il est avec des grands méchants et des grands agents qui sont censés être morts et avoir été tués. Enfin, tout le monde croit qu'ils sont morts. Mais ils ont des bracelets Oméga. Oui, Oméga. Il y avait du Coca aussi. Il y a une montre Oméga.
Donnez-nous
aussi.
De l'argent.
Tenez, vous devez l'avoir au poignet tout le temps.
Et en gros, ils sont dans ce truc où ils sont. Mais alors, c'est vraiment très très chelou. C'est vraiment genre une espèce de maison avec une méga piscine.
C'est une maison de retraite futuriste où ils sont prisonniers.
Ça n'a aucun sens, mais c'est génial.
Mais c'est stylé.
Mais c'est trop stylé. Ils sont dans un espèce de globe où après ils analysent les événements terroristes et où ils essaient de déceler le mensonge des gouvernements et du président américain.
Nous sommes un réservoir d'idées, Jack. Nous sommes en contact avec tous les services chargés de faire respecter la loi. Nous analysons les incidents terroristes et nous recommandons les réactions que doivent provoquer les gouvernements impliqués. Nous sommes les dernières lignes de défense contre le terrorisme universel. Et personne ne sait qui nous sommes.
Non mais ça n'a aucun sens, mais c'est génial.
Et il y a des lasers dans l'eau, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'échapper.
Personne n'a réussi à s'échapper. Personne. Personne. Le dernier qui a tenté de s'échapper s'appelait Bryce. C'était avant qu'on installe les rayons lasers. Le pauvre n'a pas survécu 48 heures.
Alors tout à fait. Et en plus, ils doivent pointer en mettant leur pouce selon un certain timing.
Et chaque
dans leur chambre.
Chaque résident... à un résident Téville, non, un résident autre qu'il ne connaît pas, qui est son gardien. C'est-à-dire que s'il essaie de s'échapper, bah, ce gars-là doit le buter. Alors qu'il sait pas qui c'est le loup ou le truc.
Gros suspense sur qui est le gardien de Jean-Claude. C'est-à-dire qu'il y a un mec avec qui il se fight et on se demande vraiment si c'est pas lui, quoi. Mais ça, ce truc, c'est vraiment, genre, je me dis, ok, on a switché, on est dans un film complètement différent. Qu'est-ce que c'est que ce truc de la colonie?
Et ça marche. On va voir Van Damme qui, donc, on l'a pas trop dit, mais il se réveille et il est estropié. Hein, il a la jambe
qui part en couille.
Et il va s'entraîner parce qu'il veut s'échapper, puisque Mickey Rourke, il a pécho sa femme.
C'est drôle d'avoir la jambe qui part en couille, du coup.
Ah, mais de quel côté?
Est-ce que tu t'étires?
Oui, je ne sais pas. Mais la jambe, est-ce qu'à partir de la couille, c'est déjà la jambe?
Ah!
Le rigolo qui se moque de moi a des chances de se retrouver la tête dans le trou de son cul.
Donc il décide, il doit s'échapper. Il doit s'échapper parce que, voilà.
Bah, il doit s'échapper parce que surtout sa femme va accoucher bientôt. Il veut lui dire qu'elle est, qu'il est vivant. Enfin, il y a en plus il y a une espèce, espèce de communication de l'extérieur avec cette espèce de ces espèces de caméras, enfin partout avec une histoire de papillon.
Une espèce de cadmérade.
Et donc s'ensuit dans la cheminée.
S'ensuit arc.
Donc s'ensuit une scène. Ou en fait un petit montage en musique que j'adore, c'est l'entraînement de Jean-Claude, comment Jean-Claude va utiliser ce pas de porte dans ses appartements privatifs pour
GF de pas de porte.
Non mais genre c'est ouf, cette scène elle est ouf et je me suis dit putain je suis vraiment contente de faire ce podcast.
C'est un des rares GEF verticaux.
Non mais c'est, elle est ouf cette scène. Alors déjà parce qu'on voit ses roupettes à travers la fine membrane de son short.
Une membrane de roupette, comme vous et moi.
Non mais c'est... On voit un peu les choses de Jean-Claude. Hein.
Les bijoux de Jean-Claude.
Mais alors attends, pardon, mais...
Il n'y a pas que des diamants, hein.
Moché diamant. Très bien, ce GF de porte, il est tout à fait saillant, il n'y a pas de problème. Mais
une petite traction.
Parlons surtout de la scène de la baignoire, je t'en supplie.
Non, alors il faut expliquer quand même que Jean-Claude n'a pas de matériel de musculation. Et Jean-Claude étant un espèce de MacGyver en herbe, ouais, il va décider d'utiliser tout ce qui est à sa portée pour faire des outils, non mais des outils de salle.
Ah oui.
Donc effectivement, il va faire surtout des tractions de baignoire par exemple. Il va s'accrocher à la baignoire, il va la soulever.
Mais c'est surtout qu'il met donc une espèce de serviette autour de son cou pour supporter la baignoire. Très bien, tu peux soulever des trucs lourds pour te faire des muscles. Tout le monde le fait. Mais excuse-moi, mais la position qu'il utilise pour besogner cette baignoire, à un moment il met même ses mains derrière sa tête pour dire regarde, je le fais sans les mains.
Il fait avec la tête.
Et logique le partout. Donc pour moi, il est en train de baiser cette baignoire et l'analogie est tout à fait claire. C'est même pas une analogie d'ailleurs, c'est une scène de cul avec une baignoire. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur le côté MacGyver. L'empreinte avec la gomme et il s'enlève.
Alors,
la peau des trucs.
Il y a effectivement comment quantifier du temps, c'est-à-dire qu'il laisse cramer des cigarettes et il fait des petites marques pour savoir en gros combien de temps il a entre les pointages. Il a tout organisé et effectivement, en faisant son petit truc canette cigarette, il peut se faufiler.
La viande.
Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es cinglé?
Il se faufile en dehors de sa chambre pour profiter du fait qu'il y a un largage de marchandises en avion sur l'île, essayer de s'échapper. Il se fait choper, bien sûr, par son gardien qui était dans le coin avec des bouteilles de plongée et un masque. Ça n'a aucun sens.
Mais ça, déjà, mais surtout, il essaye de l'étouffer avec un sac sous l'eau. Donc,
c'est vraiment complètement...
J'ai pas trop compris.
Bah, il essaye de le noyer, je pense, dans un sac sous l'eau.
Mais en tout cas... Juste avant qu'il soit dans l'eau, il fait un espèce de saut de la foi où il saute dans le vide alors que les lasers sont toujours actifs et il touche l'eau au moment. Ah, j'ai trouvé ça super.
C'est superbe.
Je trouvais ça
super. C'est presque aussi superbe que ce moment où il s'accroche à un paquetage d'avion et où il se met à voler derrière comme s'il était sur Falcor de l'histoire sans fin. Never ending story.
Méga good guy parce qu'il y a des gars, il y a des sbires dans l'avion et il chope un gars, il est sur le point de le foutre dans le vide, il lui dit t'as un parachute. Il dit oui. Et là, il le dégage. Quand même, méga
sympa.
Loyal bon, Jean-Claude.
Sympa.
Ah oui. J'avais un parachute, courez.
Bon, alors du coup, on a une putain de scène dans un avion encore. Donc là, si on suit bien, elle a eu la fête foraine, la maternité, la prison sur l'île, l'avion. Et là, je regarde et ça fait moins d'une heure de film. Et je me dis, mais c'est pas possible.
Trop de trucs.
C'est pas possible.
Vous permettez, mon frère, c'est pour une bonne cause.
Donc, ce qu'il va faire, première chose, pour essayer de retrouver sa meuf et de buter le méchant, c'est aller chercher
c'est
des armes.
C'est rentrer chez lui. Il va chercher des armes.
Ah oui, il va voir Dennis.
Dennis Rodman. Alors Dennis, il lui fait OK, on y va. Il y va avec lui pour se faire payer.
Dennis qui, marquons-le, évidemment est une fashionista, mais surtout change de couleur de cheveux à toutes les scènes.
Oui, tout à fait.
J'ai trouvé ça super cool. C'est très gadget.
C'est une bonne idée.
Trop bien. Ouais.
Mais il est plutôt stylé. Hein.
Oui, bah après c'est calqué sur son personnage à la ville et même de basketteur. Et d'ailleurs, il y a énormément de références au basket, à chaque fois des petites vannes.
Bon, après, on n'est pas hyper pro Dennis Rodman aujourd'hui, hein, parce que lui, il est hyper pro Trump,
alors,
etc.
Alors pendant tout le film, j'ai dit « Ah, mais il est quand même vraiment stylé, Dennis Rodman ». Et après, tu m'as dit ça et je le déteste et on n'en veut pas. Voilà.
J'adore les
Et en gros, il retourne chez lui, sa femme, c'est pas sa femme, son bébé, c'est une poupée. Et qu'est-ce qu'il y a dans son bébé? Une bombe.
Elle était ouf cette scène, j'ai trouvé un peu creepy.
Et il y a un roulé-boulé sur Transat de piscine qui est vraiment genre Oui. Aux petits oignons.
Et c'est là que tu vois, alors c'est, du coup je me suis dit, franchement pour un film à petit budget, parce qu'on peut considérer ça comme un film à petit budget pour l'époque, etc., les effets spéciaux sont pas si dégueux. Alors on voit que c'est des effets spéciaux, mais
pour lesquels,
bah oui, mais du coup ce que j'ai appris sur la fiche Wikipédia de Tsui Hark, c'est qu'il avait une boîte d'effets spéciaux et qu'il était un petit peu aficionados de ce genre de trucs.
Il est touche à tout.
Ah bah c'est ça. Du coup j'ai trouvé que c'était louable aussi de sa part. Je l'aime vraiment bien, ce petit Tsui Hark.
Alors, il y a un message enregistré en boucle dans une voiture piégée. Son bébé doit naître demain. Donc, on croise des Français cyclistes, hein, parce que tous les Français font du cyclisme, c'est bien connu, surtout dans les films étrangers. Et ils prennent une toute petite voiture, une toute petite Fiat pour aller à Rome. Alors, Denis Sandman, qui fait 2 mètres, genre, bien sûr, dépasse. Oh là là. Et là, je me suis dit, oh bah, ça, c'est la grande vadrouille. Oh bah, ça, c'est Louis de Funès. Oh, ça, c'est le cinéma.
Donne-moi un coup de main. Est-ce que tu dirais un coup de pied? C'est pas drôle, mon frère.
Dennis Rodman et Jean-Claude Van Damme, donc du coup, qui vont passer la deuxième moitié du film dans un espèce de buddy movie où ils sont comme queue et chemise, ils ont un check pivotant. Hein, ils se tapent dans la main et ensuite ils tournent. Alors, peut-être que c'est ridicule, mais
non, c'est cool.
À mon époque, 97, j'étais en 3e, je pense. Et ben, moi et mes potes, on faisait ce check pivotant.
Moi, j'étais en CM2.
Mon gamin n'avait que 6 ans, monsieur.
Il se retrouve à Rome, il essaye de piéger le méchant. Alors là, il y a vraiment une scène, moi j'ai cru qu'on était dans un y a-t-il un flic, parce qu'il y a tous les flics qui sont genre en mode incognito, en mode genre déguisé et tout ça.
Les marchands de
mais fouilles. Vraiment, et en fait il y a tous les flics de la planète, parce qu'il y a tous les agents, tous les services secrets et tout ça, mais on dirait vraiment une scène qui sort d'un y a-t-il un flic, quoi, d'un Zaz. Parce
et
que...
c'est pour ça que Van Damme est tout à fait grimé et costumé
il
de
a
façon
une
magnifique.
Petite perruque à bouclettes avec des petites lunettes. Et
très
des...
années 90 d'ailleurs.
Ah non, mais ouais, c'est. Ouais. Franchement, c'est indescriptible.
C'est indicible.
Non, mais c'est indescriptible. Et surtout, il se met à chevaucher des chevaux blancs d'une calèche à un moment où il jette sa perruque. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment. C'est chevaleresque. C'est, on est encore passé dans un autre film, quoi. C'est
et
pas
c'est
possible.
Là que je me suis dit. Il fuit la scène à cheval. Est-ce que ce serait pas une cavale sans essieu?
J'ai besoin d'armes puissantes.
J'ai justement ce qu'il te faut. Tu vas passer pour un mauvais garnement, je te le garantis.
Jean-Claude, là, il est survénère parce qu'il est en mode survie. Il se fait péter la gueule dans tous les sens et il veut récupérer sa femme, son enfant va bientôt naître.
Il tombe sur un homme à la mallette mitraillette.
Ça, c'était assez. Il y a vraiment beaucoup de trucs stylés dans ce film.
Et il saute tel un écureuil australien sauvage, quoi. Il est habile. Moi, j'ai cru qu'il avait des petits trucs sous les bras, là. qu'il avait
mais au moment où il rencontre ce personnage malfrat asiatique qui va se déchausser habilement à la manière de Tigre et Dragon, et d'ailleurs, c'est là que tu vois que Tsui Hark, il aime bien les films avec les gens qui volent et qui font
et
des épées et tout.
Et, oui.
Et qui va se retrouver à manier un cran d'arrêt avec les orteils. Et alors, ça, c'est le film du stylé. Alors
c'est ça, vraiment. C'est une scène.
C'est la 9e symphonie.
Je te présente mon frère Régulo et mon autre frère Romulo. Voici mon frère Quinn. Ces moines réunissent des informations sur la ville de Rome depuis 500 ans. Ce système a pu tout remettre à jour. Le cybermoine.
Alors, heureusement, le film n'est pas terminé. Je vous vois venir, cher ami. On va aller chez les moines hackers, quoi, qui sortent.
Il manquait plus que ça dans le panel.
Qui sortent tout droit d'un Terry Gilliam, quoi, en fait. Donc on se retrouve effectivement dans une espèce d'église monastère où il y a des moines.
Et pourquoi pas.
Qui sont des hackers. Et là, je me dis, mais putain, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils fumaient, quoi.
Moi, je trouve ça stylé. Ça sert pas à grand chose, mais je trouve ça stylé.
Ça sert à rien, mais c'est pas grave. On est très content d'être là et ça fait encore un décor de plus. Donc, on a des petits clins d'œil parce que Dennis, il va faire du basket avec des crânes. Donc, basket, parce que c'est son métier.
Petite scène de connivence rigolote buddy movie où en fait ils sont tellement dans la pénombre parce que c'est un peu dans des espèces de catacombes.
À un moment ils se bagarrent, ils pensent qu'ils sont ennemis. Et alors
et en fait
sera...
c'est pas lui, oui, en fait, ils sont amis. Mais c'est moi et en fait il est d'accord.
Et c'est le quiproquo.
C'est moi. C'est toi.
Je pense que si tu mais même si tu te bats avec Jean-Claude, tu sens tout de suite que c'est lui. Il a quand même des muscles saillants, quoi. Enfin.
Ouais, mais ça faisait un quart d'heure qu'il tapait d'autres malfrats un peu musclés, donc peut-être qu'il a confondu.
Il a un énorme paquet, surtout.
Oh là là.
Merci.
C'est là que tu vois que Dennis, il est pas que 2m50, les cheveux verts et des grosses boucles d'oreilles et des tenues de Lilou Dallas. Il sait aussi mettre quelques mawashi. Et quand t'as une jambe qui fait ma taille entière, sa jambe, et tu mets des gros mawashi. Du coup, c'est un peu plaisant. C'est pas juste un sidekick rigolo. Il fait quelques petits coups. Et dans une interview, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai vu qu'il avait dit qu'il avait entraîné Dennis Rodman et que c'était assez, assez cool.
Mais alors, là, moi, je me dis, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu encore dans ce film?
bah, tourner la roue.
Des arènes de combat, un peu comme dans un péplum. Mmh. Et je me dis, c'est bizarre quand même, on a eu des chevaux et tout, mais ça manque un peu d'animaux ce film. Alors ça tombe bien, puisqu'il y a un tigre et que Jean-Claude va faire un mawashi tigre. Est-ce qu'on appellera pas ça un karaté tiger?
Tu sais, Jack, l'homme est fort, mais le tigre est plus fort.
Un karaté tiger.
Mais si, non, n'explique pas. Juste petite précision, à ce moment du film, Dennis Rodman est torse nu et Mickey Rourke aussi pour aucune raison.
Bah parce que c'est les arènes, c'est le péplum.
Ah donc
c'est
dans une arène, tu te mets torse nu. Très bien, bah écoutez, j'ai pas été dans une arène, mais la prochaine fois j'y pense.
Catherine, tu ne pourrais pas mettre ta vache ailleurs.
Scène finale où Mickey Rourke l'attend au milieu de l'arène.
Il met une balayette et il glisse sur 20 mètres dans la poussière. Mais ça, tu vois,
c'est des petits détails de baston en termes de chorégraphie, mais je trouve que c'est ça fait la petite différence. Et d'ailleurs, j'ai vu sur la fiche technique du film que Sammo Hung, que les aficionados de films de Kung Fu connaissent bien, qui est un acolyte de Jackie Chan, a participé à la chorégraphie et à la formation des cascadeurs, et c'est pour ça que c'est stylé.
Bon, alors
il l'attend pour le combat final.
Il récupère son enfant. Il y a un combat final, il récupère sa femme.
Il y a des minosols, t'es obligé d'en parler de ça.
Il y a des minosols.
Parce que c'est trop stylé la chorégraphie.
Des minosols.
Il y a Olivier Mine déjà.
Olivier Minosol.
Alors, qui s'est mis les pieds dans les places, Stavros? Ah, j'ai oublié de te le dire. J'espère que tu me pardonnes. Je sais que tu t'es donné beaucoup de peine à creuser des trous et à planter des croix ici et là. Je sais que les mines sont dispendieuses, mais j'ai pensé déplacer quelques croix.
Alors les mines sont marquées de petites croix. Et vu que Denis c'est un rigolo,
il change
les emplacements des mines. Plutôt les emplacements des croix d'ailleurs. C'est moins dangereux.
Putain, ça aurait été vachement plus stylé s'il avait fait ça.
Et qu'est-ce qui se passe? Et ben il se passe que Mickey, et ben il va marcher sur la mauvaise, du mauvais pied. Et donc que tout explose, le tigre, les arènes, tout.
Tout sauf les distributeurs de Coca-Cola.
Ah ouais.
Car c'est ce qui les sauve d'une mort certaine.
Et là je me dis c'est quand même finir en beauté que s'abriter derrière une vending machine
c'est
de Coca-Cola.
C'est l'Amérique qui les protège.
C'est l'Amérique qui te protège, effectivement.
C'est fou quand même.
Bon, on va encore me blâmer pour les dégâts.
Ce qui ne gâche pas la fin, qui est tout à fait honorable avec sauvetage de tout le monde et,
oui, et puis
le colisée qui brûle, tout ça.
On retrouve sa femme.
Ça c'est l'important.
Ça finit bien, tout est bien qui finit bien. Alors la musique, elle est pas mal, moi je trouve. Oui. C'est Gary Chang. J'étais bien. Je me suis dit que c'était cool. Et c'est lui qui avait aussi composé la musique de Piège en haute mer.
Oh, avec Steven.
Et oui. Le concurrent.
Non, c'est pas mal. Elle est pas pourrie. Je ne la fredonnerai pas, je m'en souviens pas. Mais pendant le film, elle était plaisante.
Petit point chart.
As-tu été attentive? Parce que là, on en est quand même à plein de films, donc je vais pas juste te dire oui-non,
oui,
je veux
oui,
des précisions.
Oui, j'ai été attentive, mais j'ai pas compté. Tu te doutes bien que j'étais occupée à regarder autre chose.
Alors non, je te demande peut-être une précision quant à une scène ou à un élément marquant rapport à la charte. Par exemple, si je te dis les petits bruits, est-ce que t'en as noté?
Ah, il y en a plein.
Ah oui, mais du coup, t'en as pas un qui... Oui, il y en a un qui m'a particulièrement titillé. Très bien. C'est quand, justement, il y a le faux bébé dans le landau et que ça explose sur le truc dans la piscine. Explosion dans le dos de Van Damme et il fait quand même plein de petits bruits, on a l'impression qu'il est un petit peu en train de jouir.
De choser, quoi.
Ah bah, de choser, tout à fait. Choser Beauvais. Et Sif, Sion interfécial.
Non, pas de Sif en plein écran, mais...
Non, il y a un petit short au niveau du début de Sud de la France, mais il n'y a pas de... Ouais.
Ah. Il y a une side de couille, on peut le dire.
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? Qui a osé faire ça?
Bon, GEF, là t'es obligé de préciser.
GEF vertical
et
de porte.
Ah, voilà. Mawashi retourné
1000.
Oui, mais deux
De tigre.
Et aussi
De canette de coca.
Ah, voilà, ça c'est ça qu'on veut. Bon, Mawashi sauté retourné, il n'en a pas. Je te laisse le.
On dirait un petit plat.
Mawashi, je joue pas un petit Mawashi sauté retourné, hein. Pose biceps.
Oui.
Mais deux
profil.
De baignoire sur YouTube. De baignoire, il baisse la baignoire, il met les mains derrière le dos et c'est le pose biceps. Bon, ok, coup de boule.
Non.
Oui, non, mais Mickey Rourke, oui.
Depuis quand on fait.
C'est des petites précisions.
Comité de Mickey Rourke.
C'est pas courir Rourke.
Stavros est très dangereux. Si vous affrontez son regard, il vous aura par derrière.
La bosse, tu l'as vu,
oh, oui, oui, oui.
Non, sa bosse de front, hein. Je dis pas sa bosse de couille.
Je n'ai vu que ça.
Voilà, bon, le reste, c'est non, les clins d'œil, tout ça, il n'y a pas. Il est pas méga joyeux. Quand sauf qu'il est avec sa femme, il est joyeux, mais sinon, il est pas.
Bon, il est quand même gros sur la patate, hein.
Non, non, mais la charte est remplie, une petite charte Vendôme, elle est propre, elle est nickel, on en veut.
L'offensive mène à la gloire, mais la défensive procure la victoire.
Bon, alors, dans la vie, Jean-Claude, il fait des petits allers-retours en riab, mais on sent que là, on est dans un petit mieux quand même.
Oui, et ça se voit d'ailleurs, il est beau. Alors déjà, il n'a pas les yeux à moitié fermés. Il est beau, il n'a pas les yeux à moitié fermés. Pendant le film, tu le vois vraiment, il est en mode... enfin, non, à l'écran, en tout cas, il a l'air impliqué,
tu sens qu'il est impliqué, enfin, tu vois, ouais. C'est-à-dire que comparé... Enfin, je vais faire une blague de cinéphile, mais comparé à son implication dans son rôle de Street Fighter, là, c'est Daniel Day-Lewis, quoi. C'est vraiment genre le mec est dedans quoi.
Non mais vraiment il est méga à fond, il est méga beau et surtout à la ville. Bon alors j'ai pas trop d'infos sur ce qui se passe. Il est fraîchement divorcé, il a ses enfants etc. Et j'ai vu deux interviews notamment une chez David Letterman donc promo oui. de Double Team etc. Il est toujours très professionnel. Il utilise le public, il fait des clins d'œil, il fait des blagues, il joue sur le fait qu'il a un accent fort. On lui pose toujours les mêmes questions, ça me fait un peu chier. Enfin surtout Letterman de ah Schwarzenegger Stallone qu'est-ce que vous en pensez. Bon tu vois ça.
Non, mais... Le mec ça fait genre 15 ans bah, c'est ça. Les mêmes questions,
bon, il répond, il
m'étonne qu'il sniffe des montagnes de cocaïne quoi. Enfin,
c'est juste à cause de cette question.
Putain.
Non mais et d'ailleurs c'est au détour de cette question sur Stallone et Schwarzy, il lui demande s'il a mis de la thune dans Planet Hollywood. Tu te souviens de Planet Hollywood?
Oui, je me souviens.
Et en fait,
j'étais allé, il y avait une réplique des Gremlins.
Bah voilà. Mm-hmm. Il dit qu'il a pas mis de thune dedans, mais que si quand il y va, genre aux ouvertures
bah,
et tout,
il paye ça, il paye son addition.
Comme tout le monde. Non, apparemment il chope des actions et tout, donc voilà, c'est bon, il fait son taf d'acteur. Et j'ai vu une autre interview un peu plus intéressante et plus à la cool chez Conan O'Brien qui est beaucoup plus détendu quoi, où il passe son temps à lui faire des mawashi donc c'est assez marrant, où tu vois que vraiment
c'est encore la bête de s'amuser quoi. Enfin, oui, y a un
alors
truc,
non justement là c'était pas trop fait à mawashi pour nous faire rigoler, c'est plutôt Conan O'Brien qui essayait de lui mettre des coups genre hey, tiens tu as celle-là et ils jouaient ensemble, c'était assez rigolo. Et là tu vois que il est détendu, il est en promo mais que il est quand même il cabotine un peu et tout, et ça fait plaisir. C'est pas juste, je viens de parler du film que j'ai à peine vu, j'étais sous coke H24, là c'est tu sens que il y a un petit, c'est pas un creux du coup, c'est l'inverse, c'est une bosse.
Non mais parce que il y a
quoi.
Des aléas quoi, enfin tu vois, enfin t'es pas toujours en montée, enfin t'es pas toujours en descente, parfois
non, bien
tu
sûr.
Stagnes.
Non mais là tu vois qu'il a été
tu vois la vue quoi.
Tu vois qu'il s'est soigné et que bah on sait que le pire reste à venir, mais là il est dans mieux. Là il est dans un mieux, ça fait plaisir.
J'espère que vous ne jugez pas les gens par leur apparence. Je n'aime pas ça.
Il y avait un projet dans lequel Jean-Claude devait apparaître après Double Team, du coup, qui était une espèce de film d'horreur et d'action qui s'appelle Abominable et qui était genre un peu décrit comme un prédateur dans la neige, enfin avec l'abominable homme des neiges. Et en fait, son personnage devait genre sauver un groupe de personnes coincées dans les montagnes, je sais pas quoi. Et en fait, ça s'est tellement planté. Au box-office, au Double Team, qu'entre 95 et 2000, il y a plein de réalisateurs qui ont été assignés. Il y a eu Peter Yams, notre ami qui joue au dé. Il y a eu Rennie Harlin. Enfin bon. Et en fait, ils ont décidé d'annuler. Enfin, Universal a décidé d'annuler ce film qui, je pense, aurait été fameux avec le Yeti. Mais il y a eu un autre film qui est sorti, mais qui n'a rien à voir avec ce projet, en tout cas.
Ah oui, mais je veux bien. Mais le prochain, c'est pas le Yeti, c'est Piège à Hong Kong, encore de Tsui Hark. Et il y aura du piège à Hong Kong.
Eh, j'ai hâte de le voir, hein.
Que le meilleur gagne.
Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme? Eh ben, on va en voir des films de Jean-Claude.
Là, vous voulez être un véritable acteur.
C'est ça.
Regarde Van Damme. Hop.
Rappelez-nous votre nom.
Jean-Claude Van Damme.
On s'en souviendra.